André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage avec Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, revenu de l'au-delà en la personne de Philippe Merlan. Bonjour Philippe, qui nous parle de sa vie illustrée par nos comédiennes et comédiens avec des extraits de ses pièces. Donc Françoise Bénard, bonjour Françoise.
Bonjour à tout le monde.
Muriel Murard, bonjour Muriel.
Bonjour à tous.
Michel Lagouin, bonjour Michel.
Bonjour tout le monde.
Et Pierre Rougeau, bonjour Pierre.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Nous poursuivons donc notre interview de Molière où nous l'avons laissé lors de notre dernière émission. Jean-Baptiste, après le scandale de l'école des femmes, parlez-nous de la guerre des impromptus.
Le scandale fonctionne si bien que le roi m'invite à donner une nouvelle pièce à Versailles. Alors j'avais choisi de doubler la mise en créant une comédie plus polémique encore. Je me suis moqué de tout dans cette pièce, de ma propre troupe et surtout de la concurrence. Je raillais les marquis ridicules qui ne se sont pas reconnus d'ailleurs. Nous jouâmes donc à Versailles l'impromptu de Versailles. Je répondais ainsi aux attaques suscitées par le succès de l'école des femmes. Succès tel que l'hôtel de Bourgogne créa l'impromptu de l'hôtel de Condé. Le polémiste Jean Donneau créa, lui, réponse à l'impromptu de Versailles. Le dramaturge Edmé Boursault, la contre-critique de l'école des femmes. C'était une vraie guerre comique. Dans l'impromptu, j'en ai profité aussi pour envoyer une pique à Corneille. C'est vrai que je ne me suis pas étendu sur le sujet de la concurrence. Si on a le temps, je vous en reparlerai. Un tournant a eu lieu pour l'impromptu, par une compétition. En fait, pour le mariage de son fils, le prince de Condé nous invita avec l'hôtel de Bourgogne pour venir jouer, l'un comme l'autre, la critique, la contre-critique et les deux impromptus, en se moquant bien sûr les uns des autres sur scène. Cette année, je fus qualifié d'excellent poète comique et reçus une pension du roi. Sans sortir de la cour, je côtoyais des caractères de gens auxquels je toucherai dans mes futures pièces, des idées germées dans ma tête. Je me disais que je pourrais pousser un peu plus ma veine polémique et oser une comédie sur la religion et ses excès, mais n'anticipons pas.
Puis, vers d'autres créations et votre amitié avec Lully.
À Versailles, oui, du 7 mai au 13 mai ont eu lieu les fêtes des plaisirs de l'île enchantée. Le roi fit une fête la plus galante et la plus magnifique qu'on puisse imaginer. Je présentais La princesse d'Élide en deuxième soirée. Une pièce émouvante, une comédie sur l'amour. Ça tombait bien, ce n'était pas une coïncidence. Le roi avait organisé cette fête pour sa première maîtresse officielle, Louise de Lavallière. Une comédie donc galante, mêlée de musique et d'entrée de ballet en cinq actes. La musique était composée par Lully. Ce n'était pas notre première collaboration. On me demanda de travailler avec lui dès 1661 pour la comédie-ballet Les Fâcheux qui avait eu lieu. Je vous le rappelle, dans les jardins de Vaux-le-Vicomte. La création suivante a été le mariage forcé en janvier 1664. Nous sommes devenus de très bons amis. Je lui ai même prêté 10 000 livres pour qu'il puisse construire son hôtel particulier rue Sainte-Anne, si mes souvenirs sont bons. Nous avons même partagé la scène dans le mariage forcé, l'amour médecin et le bourgeois gentilhomme. Je me souviens que je lui disais « Lully fait nourrir ». Il ne supportait plus sa situation précaire. Je disposais de la salle du Palais Royal et malheureusement nous nous disputâmes. Il avait obtenu du roi la permission d'interdire la musique dans les pièces de théâtre. C'était en 1672, après des années d'amitié sincère.
Et vint le Tartuffe qui a soulevé un tollé.
La deuxième pièce que nous avons jouée a été Tartuffe, oui. Je vous l'avais déjà dit que le sujet sur la religion et ses excès m'inspirait. Je m'attaquais à la dévotion. Versailles a adoré et le public aussi. Coup de théâtre, si je puis dire. Le lendemain, le roi interdit la pièce. Le souverain aurait adoré laisser la pièce jouer, mais elle arrivait à un moment tendu. Un mouvement religieux, le jansénisme, mettait en danger son règne en ayant créé à l'intérieur du royaume un contre-pouvoir pour lequel les curés parisiens étaient favorables. Alors, ma comédie entre les confesseurs et les directeurs de conscience n'arrivait pas au bon moment. Le roi avait besoin du soutien du pape. Si j'avais voulu tester les limites de la polémique et de son système, je n'aurais pas fait mieux. L'affaire était devenue publique. Nous avons eu droit de la jouer uniquement en privé chez les grands du royaume. Je vais faire railler 5 ans pour que son interdiction soit levée. Pour le rendre acceptable, j'en modifierai le texte et la structure. Et en 1667, je l'avais même intitulé « Les faux dévots ou l'imposteur ». L'interdiction avait été immédiate et l'archevêque de Paris l'avait condamné comme une comédie très dangereuse. Le roi étant parti faire la guerre en Flandre, je dépêchai 2 de mes acteurs, dont Lagrange, pour lui transmettre un placé alors qu'il assiégeait à Lille. Il s'en occupa à son retour, c'est dire le statut social que nous avions. Cette comédie constituera mon plus gros succès jamais enregistré. Le scandale avait payé.
Merci Philippe. Faisons une petite pause pour écouter nos comédiens nous dire un extrait des fourberies de Scapin. Octave apprend que son père, Argante, veut le marier à la fille de Géronte. Mais il est déjà secrètement marié à Hyacinthe. Désespéré, il demande l'aide de Scapin, qui promet de le sortir de cette situation. Scapin invente divers stratagèmes pour tromper Argante et Géronte, leur extorquant de l'argent et les manipulant. Pendant ce temps, Léandre, le fils de Géronte, est lui aussi pris dans une histoire d'amour compliquée avec Zerbinette, pour laquelle une rançon est demandée. Les tromperies de Scapin sont peu à peu découvertes, mais il feint d'être mourant pour obtenir leur pardon. Les révélations finales résolvent une partie des conflits. Voici la scène 7 de l'acte 2. Mais qu'allait-il faire dans cette galère avec Géronte, Pierre, et Scapin, Michel ?
Ô ciel ! Ô disgrâce imprévue ! Ô misérable père ! Pauvre Géronte, que feras-tu ?
Que dit-il là de moi avec ce visage affligé ?
N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte ?
Qu'y a-t-il, Scapin ?
Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune ?
Qu'est-ce que c'est donc ?
Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver.
Me voici.
Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse deviner.
Hola ! Es-tu aveugle que tu ne nous vois pas ?
Ah, monsieur ! Il n'y a pas moyen de vous rencontrer.
Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que donc il y a ?
Monsieur !
Quoi ?
Monsieur, votre fils !
Eh bien, mon fils !
Est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde.
Et quelle ?
Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Là, entre plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune Turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits des plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde.
Et qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela ?
Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangeons, il a fait mettre la galère en mer. Et le voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Il m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger.
Comment, diantre, 500 écus ?
Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures.
Ah, le pandard de Turc, m'assassiner de la façon.
C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous avez aimé avec tant de tendresse.
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Il ne songeait pas à ce qui est arrivé.
Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire vite à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.
La justice en pleine mer ? Vous moquez-vous des gens ?
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.
Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle.
Quoi, monsieur ?
Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils. Et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande.
Hé, monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils.
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Il ne devinait pas ce malheur, monsieur. Il ne m'a donné que 2 heures.
Tu dis qu'il demande
500 écus.
500 écus? N'a-t-il point de conscience?
Vraiment oui, de la conscience à un Turc.
Sait-il bien ce que c'est que 500 écus?
Oui, monsieur. Il sait que c'est 1500 livres.
Croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval?
Ce sont des gens qui n'entendent point de raison.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Il est vrai. Mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez!
Tiens, voilà la clé de mon armoire.
Bon.
Tu l'ouvriras.
Fort bien.
Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier.
Oui.
Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller chercher mon fils.
Hé, monsieur, rêvez-vous! Je n'aurai pas 5 francs de tout ce que vous me dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné.
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Oh, que de paroles perdues! Laissez là cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils.
Et voici maintenant le savoureux extrait du Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet en 5 actes et en prose, qui fut présenté d'abord à Chambord le 14 octobre 1670 avant d'être joué au théâtre du Palais Royal le 29 novembre de la même année. Monsieur Jourdain, bourgeois de son état, souhaite devenir gentilhomme. Pour cela, il suit les leçons d'un maître de musique et d'un maître à danser, sans vraiment saisir la subtilité de leur enseignement. Et à l'acte 2, arrive le maître d'armes, convaincu de la supériorité de son art. Le ton monte, mais le maître de philosophie les réconcilie par son arrogance. Les trois le battent. Mais il apprend cependant à son élève comment se prononcent les lettres. Et voici la cultissime scène 4 de l'acte 2 du Bourgeois gentilhomme avec le maître de philosophie Pierre et Monsieur Jourdain, Michel.
Venons à notre leçon.
Ah, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés.
Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal, qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre?
Tout ce que je pourrai, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune.
Ce sentiment est raisonnable. Nam sin doctrina vita et quasi mortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin,
oui,
sans doute.
Mais faites comme si je ne le savais. Expliquez-moi ce que cela veut dire.
Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort.
Ce latin-là a raison.
N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences?
Oh oui, je sais lire et écrire.
Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique?
Qu'est-ce que c'est que cette logique?
C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit.
Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit?
La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Celarent, Dari, Ferio, Barry Limpton, etc.
Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie.
Voulez-vous apprendre la morale?
La morale?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale?
Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leurs passions et...
Non, laissons-la. Je suis bilieux comme tous les diables. Il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend l'envie.
Est-ce que la physique que vous voulez apprendre...
Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique?
La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, et nous enseigne les causes de toutes les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons.
Il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini.
Que voulez-vous donc que je vous apprenne ?
Apprenez-moi l'orthographe.
Très volontiers.
Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point.
Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophie, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, E, I, O, U.
J'entends tout cela.
La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A.
Ah. Ah. Oui.
La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E.
A. E. A. E. Ma foi, oui. Oh, que cela est beau.
Et la voix I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I.
A, E, I. I, I, I. Cela est vrai. Vive la science!
La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O.
O. O. Il n'y a rien de plus juste. A. E. I. O. I. O. Cela est admirable. I. O. I. O.
L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O.
O. O. O. Vous avez raison. O. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose.
La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les rapprochant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait.
U.
U. U. Il n'y a rien de plus véritable. U.
Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient, si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U.
U. U. Cela est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela?
Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes.
Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci?
Sans doute.
Le maître tailleur vient parfaire cette métamorphose par un nouvel habit à la mode. Cet accoudrement provoque la colère de Madame Jourdain. De plus, les prêts octroyés au comte Durante finissent par de l'irriter. Celui-ci vient justement réclamer l'argent et M. Jourdain s'exécute car Durante favorise ses rencontres avec une marquise, Dorimène, dont il est amoureux. Madame Jourdain veut que sa fille Lucie épouse Cléonte, mais son mari le repousse car il n'est pas gentilhomme. Dorimède arrive alors persuadé de recevoir de Dorante ce que M. Jourdain lui offre. Madame Jourdain interrompt le festin donné par son mari à la marquise d'Écovielle. Le valet de Cléonte, déguisé, annonce alors à M. Jourdain que le fils du grand Turc, Cléonte, lui aussi déguisé, souhaite épouser sa fille. Pour se rendre digne de cet honneur, le bourgeois doit devenir Mamamouchi au cours d'une cérémonie burlesque. Madame Jourdain et Lucille résistent à ce mariage avant de reconnaître Écovielle et Cléonte. Un ballet annonce le mariage du fils du grand Turc avec Lucille, ainsi que celui de Dorante avec la marquise. Mais retrouvons maintenant notre maître Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste, que s'est-il passé après le scandale du Tartuffe ?
Ben, cela ne nous empêche pas de jouer en clôture de cette fête le mariage forcé. Cela a été en quelque sorte le festival Molière. Nous continuons la saison avec la création le 14 février du festin de pierre qui deviendra Don Juan. C'était pour Carnaval, nous avions préparé un gigantesque spectacle avec des décors sublimes, des effets spéciaux jusqu'à des jets de flammes. J'avais commandé d'ailleurs tous les décors avant d'écrire la pièce. Je me suis trouvé à composer des scènes en fonction des décors. Un pari risqué, je le conçois, mais ça a été un gigantesque succès. Ça avait gardé toujours les mêmes ingrédients. Les musiciens qui annoncent la pièce jouent lors des intermèdes, les soirs de première, victuailles, boissons gratuites et de la publicité, notamment par voie d'affiche. Pour ne pas lasser le public, de toute manière, même si j'étais régulier, il me fallait des mois pour en écrire une. Je programmais des créations d'auteurs. Corneille, entre autres. Corneille ne se bouchait plus le nez devant moi. Il avait un sérieux concurrent, le jeune Racine.
Et votre troupe est devenue la troupe du roi.
Là, oui, la saison suivante a été de bon augure et nous devenions la troupe du roi. Le 14 août 1665, le roi annonce officiellement qu'il mène une OPA, si je peux me permettre, sur la troupe de monsieur son frère. Alors, entre succès et scandale, nous étions trop visibles, trop connus pour demeurer celle de monsieur. Alors Louis XIV l'a repris à son compte, moyennant 6000 livres. Pour moi, le circuit de courtisan était achevé. De Gaston d'Orléans au roi en personne, en passant par Conti et Monsieur, bien sûr, cela signifiait l'instrumentalisation de la troupe afin de servir la propagande royale.
Et c'est à cette période que sont nés Don Juan, le misanthrope, le médecin malgré lui.
Je tiens à vous préciser qu'une saison théâtrale commençait mi-avril, après Pâques, et se terminait pour Carnaval. C'est donc en fin de saison, en février, que je crée le festin de pierre ou l'athée foudroyé, plus connu sous le nom de Don Juan. Ça m'a valu des foudres de l'institution religieuse, à déplorer l'impiété et l'athéisme et le libertinage. J'étais donc un auteur libertin. Bien sûr, je fréquentais des lieux où se retrouvaient des libertins et des esprits forts. C'est dans un de ces cabarets que j'ai rencontré Boileau, le mouton blanc ou la pomme de pin, je ne me souviens plus. De nouveau, un scandale se profilait. Ne voulant pas décevoir tous ces critiques, je continuais de poursuivre la critique de l'hypocrisie, de l'imposture et du dogmatisme en écrivant dans la foulée « L'amour médecin ». Jubilatoire pour moi de poursuivre ma bataille idéologique par un moyen, celui de la satire du médecin. Le médecin est une figure d'autorité sur les corps et non sur les âmes. Quelle merveilleuse idée j'ai eue, sans avoir subi l'anathème, de poursuivre le jeu sur la crédulité du peuple, du médecin charlatan et du dévot.
Merci Jean-Baptiste, on vous retrouve dans notre prochaine émission. Voici pour terminer un extrait de L'amour médecin. L'amour médecin met en scène des médecins incapables de distinguer une vraie maladie d'une jeune fille qui simule la maladie. Lucinde, la fille de Sgadarelle, prétend être malade pour pouvoir épouser Clitandre, l'homme qu'elle aime. Mais son père refuse catégoriquement. La pièce est une satire des pratiques médicales de l'époque. La première représentation de la pièce a eu lieu en 1665. Voici L'amour médecin avec Lucinde, Muriel, Sgadarelle, Pierre.
Ah, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel. Dieu vous garde. Bonjour, mamie, eh bien, qu'est-ce ? Comme vous en va ? Et quoi ? Toujours triste et mélancolique comme cela. Et tu ne veux pas me dire ce que tu as? Allons donc, découvre-moi ton petit cœur. Là, ma pauvre bie, dis tes petites pensées à ton petit papa mignon. Courage, veux-tu que je te baise? Viens, j'enrage de la voir de cette humeur-là. Mais dis-moi, me veux-tu faire mourir de déplaisir et ne puis-je savoir d'où vient cette grande langueur? Découvre-moi la cause, et je te promets que je ferai toute chose pour toi. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse. Je t'assure ici, et je te fais serment, qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire. C'est tout dire. Est-ce que tu es jalouse de quelqu'une de tes compagnes que tu vois plus brave que toi? Et serait-il quelque étoffe nouvelle dont tu voulusses avoir un habit? Non. Est-ce que ta chambre ne te semble pas assez parée et que tu souhaiterais quelque cabinet de la foire Saint-Laurent? Ce n'est pas cela. Aurais-tu envie d'apprendre quelque chose et veux-tu que je te donne un maître pour te montrer à jouer du clavecin? Nenni. Aimerais-tu quelqu'un et souhaiterais-tu d'être marié?
Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille. Avez-vous su la cause de sa mélancolie?
Non. C'est une coquine qui me fait enrager.
Monsieur, laissez-moi faire. Je m'en vais la sonder un peu.
Il n'est pas nécessaire. Et puisqu'elle veut être de cette humeur, je suis d'avis qu'on l'y laisse.
Laissez-moi faire, vous dis-je. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement avec moi qu'avec vous. Quoi, madame? Vous ne direz point que ce que vous avez et vous voulez affliger ainsi tout le monde? Il me semble qu'on n'agit point comme vous faites et que si vous avez quelque répugnance à vous expliquer à un père, vous n'en devez avoir aucune à me découvrir votre cœur. Dites-moi, souhaitez-vous quelque chose de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il n'épargnerait rien pour vous contenter. Est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez, et les promenades et les cadeaux? Ne tentait-il point votre âme? Avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? N'auriez-vous point quelque secrète inclination à qui vous souhaiteriez que votre père vous mariât? Ah, je vous entends. Voilà votre affaire. Que diable! Pourquoi tant de façons? Monsieur, le mystère est découvert.
Va, fille ingrate, je ne veux plus te parler et je te laisse dans ton obstination.
Mon père, puisque vous voulez que je vous dise la chose...
Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi.
Monsieur, sa tristesse...
C'est une coquine qui me veut faire mourir.
Mon père, je veux bien...
Ce n'est pas la récompense de t'avoir élevé comme j'ai fait.
Mais monsieur...
Non, je suis contre elle dans une colère épouvantable.
Mais mon père...
Je n'ai plus aucune tendresse pour toi.
Mais...
C'est une friponne.
Mais...
Une ingrate.
Mais...
Une coquine qui ne me veut pas dire ce qu'elle a.
C'est un mari qu'elle veut.
Au final, Sganarelle, pensant duper sa fille, tombe dans un piège tendu par Lisette et accepte de conclure un faux mariage avec Clitandre et Lucinde. Mais en réalité, c'est un vrai mariage. Et au final, les amoureux fuient pour vivre leur amour. Notre émission est maintenant terminée. Merci Philippe, merci Françoise, merci Muriel, merci Pierre, merci Michel. Voici la citation du jour. Dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sauts. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, appelez-moi au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.